Tu vas voir, c'est ici.
Oh, mais on n'y voit que dalle là. C'est parce que les volets sont fermés. Attends, je vais ouvrir.
Ouah, trop beau!
Ouais, c'est pas mal. Pas mal.
Oh là là, ça rend tellement mieux avec les meubles que j'ai commandés.
C'est spacieux, c'est bien équipé, ça a l'air d'être bien placé. Eh, mais attends voir cette chambre là, c'est quoi ce truc?
Je suis tellement content. On sera vraiment bien ici.
Taro?
Oui?
Il y a plein de pièces assez secondaires, d'accord, mais il n'y a qu'une seule vraie chambre?
Oui, mais regarde. Un super bureau, séparé, tout aménagé. Il y a même un magnifique tableau de liège pour organiser ton enquête sur le club des chatons.
Ça, j'aime bien. C'est fonctionnel, comme j'aime. Ça tombe bien, je me demandais quand je pourrais sortir mes petites notes. Elles sont dans les cartons.
Tu vois, je commence à connaître tes goûts.
Mais du coup, tout cet aménagement, ça a coûté cher, non?
Ah, tu sais, en comparaison avec la maison.
Attends. Ça a coûté combien en tout?
Oh, pas grand-chose, vraiment une broutille.
Taro, sérieusement, combien?
Seulement 7 petits millions de rien du tout.
7 millions?
Ah non!
Imbécile!
Le samouraï et la soubrette. Épisode 8. Sword Art Online. Saison 1.
Jean, tu commences?
Ah putain, c'est à moi! Ah désolé, moi j'étais parti chercher un truc à grailler, j'étais parti sur une intro de 6 minutes. Hein.
Non, celui-là c'est un épisode à l'ancienne.
Gomen, gomen!
Allez, on s'y met là!
Sorewa ikimasu yo!
Je te rappelle que je suis Captain VF, donc bon, ton baragouinage en japonais, j'hibite rien.
Bienvenue donc dans ce 8e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, le podcast où deux cousins, deux colocs, pardon, vous parlent d'animation japonaise et plus si affinité. Dans cet épisode, nous allons vous parler de Sword Art Online, saison 1, animé que nous abrégerons SAO parce que, oh, c'est bon, tout le monde le fait. Produit donc par A1 Pictures, il a été diffusé pour la première fois en 2012 et il est actuellement disponible sur Netflix et Wakanim. C'est également Wakanim qui a proposé l'édition Blu-ray. La série animée est une adaptation d'un light novel de Reki Kawahara et est souvent présentée comme l'initiateur des séries Isekai que l'on retrouve encore aujourd'hui.
Avant d'aborder, comme nous faisons d'habitude, la partie technique, rappelons ce qu'est un Isekai. Isekai, c'est littéralement en japonais un autre monde, et par extension, ça décrit tous les récits où le héros ou l'héroïne se retrouve dans un autre monde, un monde qui n'est pas le sien. Ici, on est un peu dans une transgression du genre, vu que plutôt que d'être envoyé dans un monde totalement inconnu, c'est un monde que nous pouvons appréhender en tant qu'humains, vu qu'on connaît le monde des MMORPG et de la VR. Dans le monde de SAO, 6 000 joueurs se retrouvent coincés dans un jeu vidéo et sont tous conscients d'être vivants et d'être dans un jeu vidéo. Par bribes, les joueurs reprennent des aspects de la vie réelle et on a ce mélange entre univers féerique et aspects du quotidien qui est assez bien vu et qui est un concept en fait qu'on reverra dans pas mal d'autres œuvres plus tard. À la seule différence qu'ici, contrairement à un jeu vidéo, lorsqu'on meurt dans ce jeu, lorsqu'on meurt dans ce monde-là, on meurt ex exactement dans la vraie vie. Il y a beaucoup d'isekai qui vont se concentrer sur l'aspect découverte de ce nouveau monde. Ici, on est un peu moins là-dessus, vu que le perso principal connaît bien cet univers, vu qu'il a beaucoup joué dans ce jeu vidéo-là. L'orientation, elle est plus sur les actes de bravoure et les interactions avec les autres joueurs. On va parler plus en détail de la partie narration et histoire, mais d'abord, Jean voulait aborder tout ce qui est visuel et audio dans SAO.
Alors oui, pour commencer par la technique, côté audio et visuel, visuellement parlant, c'est très joli en termes de dessin, l'animation est fluide, les scènes d'action sont assez impressionnantes. Y a assez peu d'incrustations 3D, donc de CGI, mais elles ne sont globalement pas tip-top, et si vous demandez à Xavier, il vous dira qu'elles sont dégueulasses concernant les boss. Xavier, je crois que pour la technique, le visuel, tu voulais dire un autre truc, non ?
Les particules !
Ah, les particules, oui. Xavier vous fait savoir qu'il y a de beaux effets de particules sur les coups et les altérations diverses. Concernant l'audio maintenant, donc en termes de sound design, les sons sont très propres, donc je vais passer directement aux musiques. Les musiques sont très belles, elles collent bien à l'action. Elles sont assez emblématiques et très facilement identifiables, donc c'est un bon point, l'OST se reconnaît. L'opening est un incontournable absolu, il s'agit donc de Crossing Field par Lisa. L'ending, je le trouve également très joli, même si je sais que Xavier, lui, l'ending le laisse un peu indifférent. Dernier petit point connexe à la technique, si vous regardez attentivement le générique de fin, vous pourrez voir que le studio Trigger a été crédité en assistance de production. Et toc.
Ah Jean, toujours à placer du Trigger quand on l'attend pas, on dirait moi avec du Kyoto Animation. Abordons maintenant la partie histoire et narration, vous inquiétez pas, toujours pas de spoiler, c'est la devise. Les premiers épisodes sont denses et assez sombres avant d'arriver à un changement de ton assez radical dans les épisodes suivants, moins intense narrativement parlant et beaucoup plus, disons, descriptif, un peu quête secondaire de RPG, dirons-nous. Il y a beaucoup d'ellipses, avec des fois des semaines et des mois entre chaque épisode, avant d'arriver à un final vraiment très ramassé, voire totalement expédié en termes d'explication. Certains personnages, je les trouve assez jetables, parce qu'ils sont uniquement là pour rendre le héros tout triste, ou pour justifier une progression du héros, une progression émotionnelle en tout cas. Avant qu'on ait eu le temps de s'attacher à eux, on les voit plus. Du coup, l'évolution de émotionnelle paraît vraiment rushée et rapide, mais au moins on comprend à peu près les raisons pour lesquelles ils se mettent dans cet état-là. Dernière chose, la série est quand même très sage en termes de fanservice, mais quand même, on se retrouve avec des plans de fesses qui sortent de nulle part, genre au hasard sur une meuf qui témoigne juste après un meurtre. Parce que, quand t'es triste d'avoir vu un meurtre, le mieux c'est une belle paire de fesses, a priori, pour les gens de One Picture.
Alors oui, je vais rajouter quelques points en termes de narration et histoire. Dans SAO, la progression est nivelée littéralement par les étages de Lanecrad, qui est donc cette bâtisse, ce monde dans lequel se déroule l'action. Chaque palier se termine par un boss qui, une fois vaincu, permettra l'accès au palier suivant. Donc c'est très simple, c'est un découpage en niveau avec un boss à chaque fois. Les joueurs sont prisonniers du jeu et doivent le terminer pour en sortir. Donc à partir de là, dans cet animé, on a à peu près tout ce qu'on pourrait envisager avec ça, c'est-à-dire des gens qui vont s'impliquer dans les combats, d'autres qui par peur vont plutôt se planquer et attendre, ou d'autres encore qui, même s'ils ne se sentent pas d'aller au combat, vont soutenir l'effort de guerre au travers de l'artisanat, par exemple, ou de la recherche et du partage de renseignements.
Parlons désormais des personnages principaux et en particulier de Kirito qui est le héros dont on suit les aventures. Donc Kirito c'est un ado qui est très fan de jeux vidéo et qui va avoir une évolution émotionnelle assez extrême dans la série. Alors elle n'est pas dénuée de sens vu que on nous donne les raisons et puis quelques éléments scénaristiques qui peuvent justifier, mais quand même on est dans quelque chose qui va vraiment assez loin en termes de comportement. Par contre, en termes de progression pour la puissance du personnage, c'est fumé. Kirito il est surpuissant quasiment dès le début, ce qui fait que malgré tous les efforts de mise en scène que la série déploie, certains combats tombent à plat parce que on n'a pas peur pour le héros. Et puis il y a le cas de Asuna. Asuna, donc c'est un personnage féminin, aussi une adolescente de, je crois qu'elle est censée avoir 18 ans si je dis pas de bêtises, qui est là pour être le love interest de Kirito. Et j'ai un problème avec ce personnage. En fait, il fait un aller-retour entre deux archétypes. D'un côté, la meuf badass qui sait ce qu'elle veut, elle est décrite comme responsable de guilde, comme volontaire au combat, et en même temps, demoiselle en détresse, fragile et submergée par ses émotions. Faire cohabiter deux archétypes opposés dans un personnage, ça peut marcher, mais là c'est fait de manière très mécanique et du coup ça ne suffit pas pour y mettre de la cohérence. Lorsqu'elle est montrée peureuse ou en situation de faiblesse, c'est uniquement pour faire briller le personnage de Kirito et moi ça me dérange. D'ailleurs, la série insiste beaucoup sur les aspects qui font d'elle une jolie petite femme au foyer, notamment en mettant en avant ses exceptionnelles capacités en cuisine.
Ok. Attends, je vais te faire écouter un truc, bouge pas.
Gnie, j'ai des opinions différentes des autres, gnie, je suis un rebelle, espèce de bouffon.
Donc je vais rajouter quelques points sur les personnages. Je vais essayer de pas revenir sur Kirito parce qu'effectivement j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais revenir sur Asuna. Asuna qui porte clairement l'anime sur ses épaules. Elle parvient à déconnardiser un peu Kirito et ça c'est quand même cool déjà, c'est un premier point. Elle est assez attachante et c'est aussi dans SAO une incarnation de la progression. Et ce, que ce soit dans le jeu, puisqu'elle est très importante au sein du groupe des conquérants notamment, mais aussi dans les relations entre personnages. Le personnage de Heathcliff, c'est pas difficile, Heathcliff, si c'est un peu difficile, lui il veut avoir les meilleurs joueurs à ses côtés, il représente bien l'archétype du joueur chevronné, très impliqué, quitte à être un peu possessif, et un peu trop enclin à vouloir tout diriger. Kirito, lui, est un connard. Alors, Xavier m'a rajouté dans mes notes de dire pourquoi. Alors, je vais vous dire pourquoi très rapidement. C'est un personnage qui est objectivement assez égoïste en début d'animé, qui se montre parfois menteur, et qui est assez présomptueux. Et ça, c'est durant tout l'animé. Merci en particulier à Asuna, mais aussi à Lisbeth, par exemple, d'être passé par là pour remettre un peu les choses dans l'ordre, c'est-à-dire faire de lui quelqu'un d'un peu moins connard. On va discuter maintenant des aspects plutôt relations, couple, amour, tout ça. Xavier, je crois que tu voulais commencer, t'avais un petit truc à dire.
Ouais, alors j'ai des trucs à dire sur la partie romance, mais avant tout... c'est pas parce que j'ai raison et que toi tu as tort que t'es obligé de sortir les meilleures vannes de Karim Debbache, pour commencer. Ensuite, oui, sur la partie romance, moi, j'ai eu, même s'il y a des parties qui sont assez touchantes, moi j'ai toujours un peu de mal avec le concept d'un couple de, allez, 15, 16, 17 ans qui vient de se rencontrer, mais directement, ils ont une relation assez mature déjà, dans un schéma traditionnel, maison, femme au foyer, et puis gamin souriant, comme si de rien n'était. Parce que je sais pas comment vous voyez les ados lorsqu'ils sont en couple, mais le côté construction d'une famille, c'est pas vraiment la priorité dans la majorité des cas.
Oula, alors, cette fois-ci, Captain VF, tu es allé trop loin. Tu ne me laisses pas le choix.
Starburst Stream!
Concernant du coup les relations amoureuses dans SAO, j'ai trouvé qu'il y avait de très belles déclarations d'amour vers la fin de ce premier arc de la saison 1. Il est en effet regrettable que cette relation évolue si vite, si brusquement d'un extrême à l'autre. Donc au départ, au tout début de l'animé, les personnages sont tous des inconnus, hein, complètement. Il y a des gens qui sont déjà des groupes de potes qui vont fonder des guildes, mais là, les personnages auxquels on gravite, autour desquels on gravite, sont des inconnus au départ, à la base. Et puis, comme tu l'as dit, ça devient des couples adultes avec enfants, mais qui ne font pas l'amour, bien naturellement, hein, ce sont des Japonais, on vous le rappelle. Je pense que c'est notamment dû au grand écart que l'on fait avec cet animé, entre le fait d'avoir peu d'épisodes, donc pour le premier arc, hein, c'est 14 épisodes, et la durée écoulée dans la diégèse, qui est d'environ 2 ans, aux informations que nous donne l'animé. Donc c'est vrai que c'est, tu l'as dit, hein, on a des passages où il s'écoule des mois, voire une année, entre des groupes de quelques épisodes, et je pense que ça joue aussi dans le fait que cette relation évolue si vite et qu'on n'a pas vraiment le temps de s'en apercevoir et de le constater à l'écran.
Je vais embrayer du coup sur la partie qui concerne les petites pistes de réflexion ou les concepts soulevés par SAO, parce que pour le coup, Xavier n'a pas grand-chose à vous dire sur cette partie-là. En termes de pistes de réflexion et de concepts intéressants, j'ai trouvé, bien que sous-exploité, hein, la partie qui explique comment sont faits les choix et les votes dans les guildes m'a paru assez intéressante. On voit aussi comment se constituent les hiérarchies. Ce qu'il faut savoir qu'en fait c'est un petit peu un bac à sable, hein. Le jeu semble mettre les joueurs au plein pouvoir de comment ils veulent s'organiser et se hiérarchiser. On voit aussi les aspects jalousie et les possibilités de représailles. Tu l'as dit, il y a des affaires de meurtre aussi dans ce jeu. On voit également des personnages qui ont des changements de personnalité à travers le jeu. Donc par là j'entends des personnages qui... dans leur vie, dans la vie réelle, ont un certain comportement, et leurs proches, qui jouent avec eux dans le jeu, les voient devenir une toute autre personne une fois dans le jeu. C'était assez intéressant. Il y a également la formation des guildes d'assassins, donc voilà, on parlait de meurtre, on se dit qu'on sait a priori que les gens qui meurent dans le jeu vont mourir dans la réalité, et malgré tout, il y a quand même des guildes d'assassins qui émergent, donc pas juste des assassins isolés, hein, vraiment des guildes d'assassins. C'est quand même quelque chose d'assez fort. On a la présence du mariage. Bon, là encore une fois, on a du mariage, mais on n'a pas de sexe, hein, n'oubliez pas, ce sont des Japonais. Il y a aussi des personnes qui ont cette petite pensée intéressante, qui ont le sentiment d'être nés à SAO et d'y avoir toujours vécu, parce que bah, faut dire qu'à un moment donné, ça fait 2 ans qu'ils sont dedans. Je trouve que c'était assez intéressant aussi comme concept. Et bien sûr, il y a toutes les interrogations qui se soulèvent au sujet de l'état dans lequel sont leurs corps respectifs dans le monde réel. Parce que du coup ils ont le casque sur la tête et ça fait 2 ans qu'ils sont en train de jouer et qu'ils se sont pas levés, donc évidemment ils doivent être dans un sale état. Toutes ces problématiques sont bien sûr propulsées par le fait que SAO est un jeu dans lequel les joueurs sont prisonniers, avec le risque de mort réelle en permanence sous la forme d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je pense que ces problématiques auraient été valables même s'ils n'avaient pas été prisonniers du jeu. Elles seraient peut-être juste un peu moins poussées, mises en avant, mais elles auraient été toujours aussi valables parce que, par exemple, pour le fait d'avoir des interrogations sur l'état du corps dans le monde réel, ou le sentiment d'être né à SAO et y avoir toujours vécu, de toute façon, il y aura toujours des otaks ou des no-life pour passer leur vie littéralement sur le jeu, même si on les y force pas.
Après ce long tunnel de Jean, il est temps d'aborder la partie VF. Et attends, Jean, j'ai vu que toi aussi t'as des notes sur la partie VF. Tu voulais en dire quoi ?
Ah oui, j'ai pris des notes. Ouais, c'est super important. Attends, faut que je le dise. Oui, voilà, la VF est abominable. De préférence, merci pour la prochaine fois de réfléchir au casting avec un peu plus que 1 gramme de sang par litre d'alcool. Et de réessayer, hein, voilà. Merci.
Ok, alors, effectivement, on pourrait dire que là, Jean, après avoir parlé un bon bout de temps, là, il a pété une durite et c'est plus possible, mais malheureusement, il a raison. Bon, il n'y a pas que du mauvais, parce que il y a une bonne adaptation, que ce soit en termes de vocabulaire repris des MMO, on a déjà vu des choses assez particulières dessus, mais là, non, c'est plutôt solide, et de prononciation des mots japonais, pour le coup, ça va. Mais pour le reste, le globalement n'est vraiment pas bon. Le Kirito, il a une voix de daron de 40 piges. L'actrice qui joue Asuna a une voix très effacée et avec trop peu d'intonation pour faire vivre le personnage. Certaines voix sont trop forcées ou voire carrément en désaccord avec le personnage joué. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la saison 2 a été confiée à un autre studio de doublage, même si ce n'est pas l'unique raison. Je vous renvoie à d'autres vidéos d'un dénommé Mr. Fox qui va bien expliquer le souci.
Eh bien voilà, on va embrayer vers la conclusion. En conclusion, sur SAO, j'ai beaucoup d'affection pour cette série. J'aime ses nombreuses qualités. Le principal reproche que je lui ferai est qu'elle sous-exploite son matériau au sens global, donc ce soit l'univers ou les pistes de réflexion. On n'en voit pas assez, ça aurait pu être poussé plus loin. C'est dommage et je dirais même que c'est légèrement frustrant.
Ok, ben ma conclusion, c'est que SAO a des défauts qui sont assez voyants sur pas mal d'aspects, notamment sur la partie narrative, mais la série est toujours aussi efficace dans sa proposition de base et dans son concept, et que pour moi, sa qualité de production au-dessus de la moyenne en font toujours une référence aujourd'hui, et que c'est pas pour rien que c'est encore un modèle pour pas mal de séries isekai qu'on a encore aujourd'hui. C'est ainsi que se termine ce 8e épisode déjà du podcast Le Samouraï et la Soubrette. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous laisse avec un extrait VF comme on le fait d'habitude. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut!
Il ne fallait pas venir maintenant. Si t'avais attendu encore un peu, t'aurais pu retrouver la Lisbeth de d'habitude, souriante et pleine de vie. Comment t'as su où j'étais ?
Je suis monté là-haut et je t'ai aperçu.
Ça te ressemble bien de faire une chose aussi bizarre.
Ah merde, Xavier ! L'arc 2 ?
Oui, l'arc 2, tu veux dire ce qu'il y a à partir de l'épisode 14, là.
Après l'épisode 14, ouais.
Effectivement, on n'en a pas parlé, mais moi, c'était presque fait exprès, hein, je t'avoue.
Ah putain, mais l'arc 2, c'est chaud, en vrai.
Oui, c'est comme je dis, c'est... Moi, je veux pas en parler, voilà.
Attends, c'est bon, on va mettre un sketch, regarde, hop.
Ah, ce ragoût lapin de rang S était exquis.
Je fais de mon mieux pour faire honneur à ce que tu nous rapportes.
En te rencontrant, j'aurais jamais pensé que tu puisses cuisiner aussi bien.
Oh, tu as encore tellement de choses sur moi à découvrir.
T'as pris du bonnet là, non ?
C'est normal, j'ai monté ma compétence de kendo.
Mais ça n'a aucun... ok...
Bon, j'ai fini de ranger la vaisselle. Il ne reste que ta tasse.
Ouais, attends, je finis mon thé.
Yoshu ! On passe à la suite ?
Quelle suite ? T'avais prévu un truc ? Attends, mais qu'est-ce que tu fous ? Mais garde tes vêtements !
Ah, allez, déshabille-toi. Tout seul, c'est un peu gênant.
Tu t'es pris pour ma cousine ou quoi ? Dégage !